L'arnaqueur est celui qui s'en prend au cœur des femmes. C'est le titre d'un film célèbre, mais aussi le scénario bien noir d'une affaire jugée depuis deux semaines par la cour criminelle de Paris. Salim Berada est jugé pour avoir trompé de nombreuses femmes sur des applis de rencontres. Beaux parleurs, séducteurs, manipulateurs, il les entraînait jusque chez lui pour les droguer et les violer, des faits qu'il dément fermement, s'affichant plutôt comme un séducteur incompris. Le violeur de Tinder, comme il a été surnommé, est loin d'en avoir fini avec la justice. Quel était son mode opératoire? Comment s'est déroulé son procès? Je suis Philippe Godin et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires Suivantes, le podcast inédit. Bonjour Manon Blanc.
Bonjour.
Vous êtes journaliste police-justice à BFMTV.com. Avec vous, on va revenir sur ce procès que vous avez suivi sur le mode opératoire de Salim Berada. Bonjour Maître Philippe-Henri Honegger.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris. Vous représentez l'une des femmes qui a porté plainte contre Salim Berada dans le cadre d'une seconde enquête, on va en parler, qui a été ouverte contre lui pour viol aggravé, affaire toujours en cours. Mais d'abord, Manon, vous avez donc suivi le procès de cet homme, ce violeur de Tinder. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus ?
Eh bien, ce qui m'a marqué, c'est qu'à quelques détails près, ces jeunes femmes ont raconté toutes quasiment la même histoire. À la barre, elles ont décrit des récits identiques, avec un même mode opératoire. D'abord, Salim Berada approche des jeunes femmes sur les applications de rencontre ou sur des sites qui mettent en relation des modèles et des photographes. Il leur propose une séance photo, parfois elle est offerte, parfois elle est payante. Puis il leur donne rendez-vous dans son appartement du 20e arrondissement de Paris, qui fait aussi office de studio photo. À leur arrivée, il prétexte vouloir détendre un petit peu l'atmosphère et leur propose, ou plutôt leur impose, un ou deux verres d'alcool. Mais dedans, il y a glissé de la drogue et des médicaments. Une fois que les effets commencent à se manifester, il les viole et il les agresse sexuellement.
Alors la juge d'instruction a parlé d'une sorte, je cite, d'industrialisation du processus de rencontre. De quoi parle-t-elle exactement ?
Oui, effectivement, la juge d'instruction, elle a utilisé ce terme, industrialisation du processus de rencontre, parce qu'en fait, lors de la perquisition de son appartement, les enquêteurs ont découvert dans son ordinateur un fichier Excel. Et dans ce fichier Excel, il y avait des phrases d'accroche toutes prêtes, des compliments, des plaisanteries, des propositions, bref, des messages prêts à l'emploi. Et ces phrases-là, il les copiait-collait. Il les envoyait à un grand nombre de femmes et pour chacune, c'est la même technique. Il lui dit qu'elle l'inspire, qu'elle est sa muse, qu'il veut absolument la prendre en photo. Et en gros, excusez-moi l'expression, il attend que ça morde.
Alors une fois le rendez-vous pris, ces jeunes femmes vont donc se rendre chez lui. Et là aussi, on se rend compte que son mode opératoire est parfaitement rodé.
Oui, Philippe, exactement. Là encore, c'est une mécanique très bien huilée. Parce que pour soi-disant détendre l'atmosphère, on le disait plus tôt, Salim Berada leur propose de boire un verre. Alors parfois c'est du vin, parfois c'est un shot d'alcool fort comme de la tequila. Puis, il entame la conversation, une conversation intime, où Salim Berada parle quasiment toujours de sexe. Il leur propose ensuite de commencer la séance photo et leur demande rapidement de se dénuder et de prendre des poses suggestives. Dans le même temps, ces jeunes femmes commencent à se sentir mal et là encore, elles décrivent des symptômes identiques. Une ivresse anormale et beaucoup trop rapide pour la dose d'alcool qu'elles ont ingérée, des bouffées de chaleur, une perte de contrôle. Toutes sont quasiment sûres d'avoir été droguées.
Alors lui dément les avoir droguées. Est-ce qu'on a pu vérifier si oui ou non elles avaient été droguées ?
Alors c'est extrêmement difficile d'affirmer avec certitude que Salim Berada a drogué ces jeunes femmes, mais des traces de MDMA, c'est-à-dire de l'ecstasy, et d'antihistaminiques ont été retrouvées dans les cheveux de la moitié des plaignantes. Alors pour la MDMA, c'est pas compliqué à imaginer, c'est de la drogue, mais pour les antihistaminiques, en fait, ces molécules, ce sont des molécules que l'on retrouve dans le Fervex ou dans le Dolirum, c'est-à-dire des médicaments en vente libre en pharmacie, et mélangées à de l'alcool, elles peuvent entraîner un effet sédatif. Alors Salim Berada, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il nie toute soumission chimique, mais pendant la perquisition de son domicile, les enquêteurs ont retrouvé de la MDMA et surtout des plaquettes d'antihistaminiques vides.
Alors ces femmes vont se retrouver dans un état second. Que racontent-elles au sujet des viols, des agressions qu'elles vont subir ?
Alors j'ai assisté quasiment à la totalité des témoignages et les scènes qu'ont décrites ces jeunes femmes à la barre sont glaçantes. Elles parlent d'un homme qui se métamorphose d'un coup par l'envie sexuelle, qui devient froid, qui devient violent, qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. Parmi les récits qu'on a entendus à la barre, on a entendu des jeunes femmes qui expliquent avoir été traînées au sol par les bras ou par les cheveux, des fellations imposées, des cunnilingus forcés, des pénétrations digitales et péniennes, et surtout le tout avec une grande brutalité et une violence sans nom.
Et même après les viols, il va garder ce même comportement.
Oui, exactement, Philippe. En fait, une fois qu'il les a violées ou agressées sexuellement, ce que racontent ces femmes, c'est qu'il change radicalement de comportement. Il devient complètement indifférent aux jeunes femmes et il fait comme si tout était normal, comme s'il ne s'était rien passé.
Alors Salim Berada, comment se défend-il ?
Eh bien, depuis le premier jour de sa mise en examen, tout au long de l'instruction et pendant les 2 semaines de procès, il a toujours maintenu la même version. Il n'a pas violé ses femmes et il ne les a pas droguées. Alors oui, au procès, il a bien voulu admettre un petit côté manipulateur. Il a bien voulu reconnaître que les séances photos étaient un prétexte pour coucher avec elles. Mais il ne leur a rien imposé. Les relations sexuelles étaient consenties. Et Philippe, il va même encore un petit peu plus loin puisqu'il explique que si ces jeunes femmes ont fait volte-face, c'est qu'elles se sont senties manipulées ou utilisées. Et d'ailleurs, pour lui, elles se sont même concertées pour déposer plainte.
Alors a-t-il été condamné ?
Eh bien, à l'heure où nous enregistrons ce podcast, non, pas encore. Le verdict est attendu vendredi soir, tard dans la nuit. Mais dès que le verdict sera rendu, vous pourrez évidemment le retrouver sur bfmtv.com.
On en est donc là au verdict d'une première affaire, mais il y en a une deuxième.
Oui, et pour comprendre, on va faire un retour en arrière, en 2016. À cette époque-là, Salim Berada est donc mis en examen après ses 17 plaintes, on le rappelle, 13 viols et 4 agressions sexuelles. Et à ce moment-là, il est placé en détention provisoire. Mais en 2019, il est libéré et placé sous contrôle judiciaire. Et ça, Philippe, c'est légal, parce que comme son nom l'indique, la détention provisoire ne peut pas durer indéfiniment. Et depuis sa libération, 6 nouvelles plaintes ont été déposées contre lui pour des viols qui auraient été commis en 2021, 2022 et 2023, soit la période où il est libre sous contrôle judiciaire. Une seconde enquête a donc été ouverte contre lui en juillet 2023 pour viol avec administration d'une substance à la victime. L'enquête est toujours en cours.
Merci beaucoup Manon pour toutes ces explications. Maître Philippe-Henri Honegger, je reviens vers vous. Vous défendez donc une femme, une plaignante, dans cette deuxième affaire qu'on vient d'évoquer. Qu'a subi votre cliente?
En fait, ce qu'elle a subi, ça ressemble, très étonnamment ou pas, à ce que décrivent toutes les autres femmes qui ont subi ce genre de fait de la part de ce monsieur. C'est-à-dire une rencontre sur une application de rencontre, un rendez-vous fixé qui semble tout à fait normal, quelqu'un qui arrive, qui d'ailleurs dans ce cas-là n'est pas vraiment conforme aux photos qui étaient sur l'application de rencontre. Mais en fait, ce qu'on sait, c'est que après son placement sous contrôle judiciaire, son visage était connu et circulait sur les réseaux sociaux, et donc il utilisait des photos qui n'étaient pas les siennes pour permettre de rencontrer des femmes. La rencontre se passe au départ relativement bien. Il apporte une bouteille de vin, il sert un verre. Ma cliente dit « moi j'ai bu ce verre, une partie de ce verre comme j'aurais pu le faire normalement. Je pars de la pièce pour aller aux toilettes, je reviens et à partir de ce moment-là, je ne me souviens plus de rien, sauf quelques flashs très vagues, de moments d'intimité sexuelle qu'elle n'aurait jamais ou pas forcément voulu. Et puis, au matin, elle se réveille en se disant « trou noir, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne comprends pas, elle se sent dans le flou ». Elle a l'impression qu'il s'est passé quelque chose qu'elle n'a pas voulu, mais elle n'a pas de souvenir précis de ce qui a pu se passer. Elle se lève, elle va dans son salon, elle trouve que les choses sont un peu bizarres, elle se souvient que les photos n'étaient pas conformes, il se trouve qu'il a laissé son téléphone sur la table du salon. Elle ouvre le téléphone qui n'avait pas de code, et dans ce téléphone, une seule appli, une appli de rencontre, l'appli de rencontre dans laquelle elle l'avait rencontré, et des centaines de photos de jeunes femmes dont il avait fait des captures d'écran. Elle comprend à ce moment-là qu'il y a quelque chose de très très bizarre. Elle, en réalité, n'a pas du tout connaissance de cette affaire, ni de l'existence de ce monsieur, mais elle se dit qu'il y a quelque chose de très très bizarre qui vient de se passer. Elle va le voir, elle commence à lui en parler. Ils échangent à peine quelques mots, il reprend le téléphone, son manteau et il s'en va. Le temps même qu'il passe la porte, elle retourne sur son téléphone à elle pour signaler sur Tinder ce qui s'est passé. Il a déjà effacé la conversation, elle va faire un signalement. Elle va en parler avec des amis, mais elle, si vous voulez, sa difficulté, c'est qu'elle se souvient de rien. Parce que quand on a été drogué dans ces conditions-là, c'est vrai que c'est difficile de savoir qu'on a été drogué, et c'est difficile de savoir ce qui s'est passé, si on a été violé ou pas. Mais elle en parle très rapidement, à la fois sur Tinder en disant « attention, ce profil, il est très très bizarre, il s'est passé quelque chose, je suis sûr que je voulais pas ». à des amis autour d'elle qui lui disent bah, « si tu te souviens de rien, on ne peut pas savoir, c'est sûr qu'il y a quelque chose de bizarre, mais voilà ». Et puis elle continue sa vie à partir de ça, et puis c'est quelques semaines plus tard que par hasard, elle va tomber justement sur les réseaux sociaux, sur des messages qui circulent d'alerte pour les jeunes femmes en disant « attention, il y a un prédateur dans la nature, regardez, il fait maintenant circuler ses photos qui ne sont pas les vraies photos de lui, mais qui sont les photos qu'il utilise pour draguer les femmes », et elle se rend compte que c'est la photo, que c'est le même nom et que le mode opératoire qui est décrit sur les réseaux sociaux est exactement celui dont elle a été victime. Dans la foulée, elle va déposer plainte.
Ce qui est terrible, c'est qu'on a un moment où il est en liberté conditionnelle et ça veut dire que cet homme, rien ne l'arrête.
Bah, c'est-à-dire, mais je crois d'ailleurs qu'il le décrit assez bien, autant dans le premier volet que dans le second volet, c'est il a un appétit insatiable de conquête sexuelle. Lui, il dit que c'est un appétit insatiable de conquête sexuelle légale, si on peut dire, c'est-à-dire de manière consentie. Il semblerait qu'il y ait un certain nombre de femmes, et elles sont de plus en plus nombreuses, qui disent que cet appétit sexuel, il le satisfait, qu'elles soient consentantes ou pas.
Et c'est là effectivement toute la différence. Il dit d'ailleurs pendant ce procès, je suis le goujat de l'histoire, celui qui veut que les femmes viennent chez moi pour coucher, je l'avoue, oui, j'ai un appétit sexuel, mais en fait c'est juste là mon tort. On est bien sûr bien au-delà de ça.
Oui, oui, lui, en tous les cas, il se décrit comme une sorte de Don Juan, qui comme Don Juan utilise quelques stratagèmes pour arriver à ses fins, mais qui le fait de manière tout à fait légale. La réalité, c'est que visiblement, les moyens qu'ils semblent utiliser, ils ne sont pas du tout légaux, puisque pour un certain nombre d'entre elles, en tous les cas, dont ma cliente décrivent l'utilisation de la soumission chimique, c'est-à-dire de drogue pour arriver à ses fins, et puis ce qu'on comprend aussi par la multiplicité et, je dirais, les méthodes employées, c'est que c'est en réalité quelqu'un qui est dans un rapport de prédation à ces jeunes femmes, et qui, en réalité, d'un point de vue psychologique, semble être en réalité dans une forme de recherche de violence sexuelle, de domination par le sexe, et pas du tout, j'allais dire, un Don Juan qui tombe amoureux de chaque femme qu'il rencontre.
Qu'est-ce que votre cliente raconte, si elle s'en souvient, du début de cette soirée ? C'est un beau parleur, c'est quelqu'un qui sait s'y prendre, c'est un flatteur. Qu'est-ce qu'elle se souvient de ce début de soirée ?
Oui, elle dit on a une conversation sympathique, comme on peut en avoir régulièrement dans ce genre de cas. Il lui a raconté un peu sa vie, qui d'ailleurs est tout ce qu'il a raconté était absolument faux. Ils ont un peu échangé. Enfin, c'était agréable. Et je dirais même, sans préjuger ce qui aurait pu se passer ce soir-là, mais que ça aurait pu être une soirée comme on en a habituellement quand on fait des rencontres sur les applications de rencontres. Et c'est aussi ça qui est un petit peu frappant dans cette histoire. C'est que, malgré tout, ça se passait pas mal. C'était pas comme dans les autres affaires où il faisait venir une femme sous un faux prétexte pour faire des photos et qu'il utilisait ce prétexte pour ensuite arriver à un rapport sexuel qui avait pas du tout été prévu. Là, ça se passait pas si mal. Mais malgré tout, il y a eu l'utilisation évidente de la soumission chimique pour arriver à ses fins. Ça veut dire que ça va au-delà de l'idée d'obtenir les faveurs sexuelles. C'est que pour lui, il y a une démarche qui est celle de soumettre malgré la volonté ou le consentement de la personne qui est en face, et que quelque part, après c'est peut-être des suppositions de ma part, mais il tire sa jouissance de cette capacité à dominer et à soumettre contre la volonté des femmes qu'il a en face de lui.
Ce qui est épouvantable aussi dans cette affaire, c'est la mécanique. On a des grands criminels qui consignent leurs crimes, qui écrivent leur mode opératoire, qui décrivent l'arme qu'ils ont utilisée et qui prennent du plaisir à tout consigner. Lui, il a des fichiers Excel avec la mécanique opératoire pour aborder ces femmes et pour les faire basculer, pour les séduire contre leur gré.
Alors je dirais, c'est pas le seul dragueur qui tient des petits tableaux ou des carnets dans lesquels il y a ses conquêtes. Et je dirais, il n'y a pas que les hommes qui font ça. En revanche, ce qui est très très étonnant dans cette histoire, pour ne pas dire choquant, c'est le côté industriel de la chose, l'utilisation d'un tableau Excel qui donne un peu cette image qu'en fait, c'est c'est très mécanique, quoi. C'est très froid, c'est quasiment statistique pour lui. Et puis ensuite, effectivement, ces techniques qui sont utilisées, répétées, probablement peaufinées. On est plus de l'ordre, effectivement, du prédateur, du chasseur, que de quelqu'un qui essaye d'établir des rapports humains sains.
Comment va votre cliente aujourd'hui ?
Ben, elle va mal. Elle va mal, comme toutes les femmes dont on a abusé. Elle va mal parce que, déjà, elle n'a pas de souvenir de ce qui s'est passé. Et que donc, ou très peu, elle a des flashs. Et donc, c'est extrêmement difficile de réussir à se construire et à se situer par rapport à ce genre de fait quand on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Elle va mal parce que pour elle, ça a été une double détente. C'est-à-dire que dans un premier temps, elle se dit « je pense qu'il m'est arrivé quelque chose, mais je ne sais pas quoi ». Et puis dans un deuxième temps, elle se dit « ah, mais en fait, non, j'ai été victime d'un prédateur ». Et donc, il y a aussi, et c'est malheureusement trop souvent le cas, un sentiment de culpabilité, de se dire « mais comment j'ai pu tomber dans le panneau, j'aurais dû savoir, il était connu ». Et en fait, comme toujours, c'est-à-dire que les victimes dans ce genre d'histoire, elles vivent la culpabilité qui ne devrait être que celle de celui qui est le seul auteur coupable des faits dans l'histoire.
Et ce qui sera difficile s'il y a procès, c'est la manière de prouver les choses. On va être dans un dossier, malheureusement, de parole contre parole.
Alors, ce n'est pas vraiment parole contre parole, parce que y a certains des cas, effectivement, dans le premier volet, et d'ailleurs, c'est ce qu'il utilise comme stratégie de défense, où il dit, vous dites que je l'ai fait, mais en fait, je ne l'ai pas fait, ou peut-être vous vouliez, ou peut-être vous voulez vous venger. Dans le cas précis de ma cliente, ce qui est très singulier, c'est que, en fait, le signalement qu'il s'est passé quelque chose de pas normal, il est fait le jour même. C'est-à-dire dans les heures qui suivent la rencontre, il y a tout de suite un signalement. Elle ne saute pas tout de suite en disant « j'ai vu qu'il était sur les réseaux sociaux, j'ai appris que c'était lui, donc il m'a violé ». Elle fait un signalement qui est très objectif, c'est-à-dire « il s'est passé quelque chose de bizarre, je ne sais pas ce que c'est ». L'autre élément de preuve qu'on apporte, c'est que très vite, tout de suite, dans les heures aussi qui suivent, elle a des conversations qu'elle a conservées avec des amis et des proches, dans lesquelles elle dit « mais je pense qu'il m'est arrivé quelque chose. Je ne comprends pas pourquoi j'ai plus de souvenirs. À mon avis, il s'est passé ça, ça, ça ». Et ce n'est que bien plus tard qu'elle va apprendre son identité et qu'elle va déposer plainte. Donc si vous voulez, alors on peut toujours dire c'est parole contre parole, mais je veux dire, c'est pas la parole de quelqu'un 2 mois, 6 mois, 1 an plus tard qui vient dire « ah, rétrospectivement, il m'est peut-être arrivé quelque chose ». C'est un ensemble d'éléments matériels, parce qu'on a des documents, je dirais, avérés, qui viennent raconter une histoire qui est corroborée ou qui est corroborante de ce que raconte, de ce qu'est la parole de ma cliente, contre la parole d'un homme. Il faut quand même bien le dire, parce que même quand on est parole contre parole, il y a certaines paroles qui sont plus crédibles de l'autre. Contre la parole d'un homme dont on sait par ailleurs qu'au moins une vingtaine d'autres personnes décrivent exactement la même chose de la même manière. Disons que, je ne pense pas que ça soit parole contre parole, et quand bien même ça le serait, c'est une parole crédible contre une parole à laquelle on ne peut apporter aucun crédit.
Et on suivra évidemment cette affaire. Merci beaucoup, maître, d'avoir été avec nous. Merci, Manon Houblanc. Affaire suivante, le podcast inédit, c'est à retrouver évidemment sur le site de bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming. À la semaine prochaine.